Vous écoutez RTL.
Les sardines, on adore ça, mais pour nous, souvent, leur histoire commence dans une petite boîte de conserve et se termine dans nos assiettes.
Bah oui.
C'est un peu court, mais comme on est curieux, on a eu envie d'en savoir plus grâce à notre invité, Philippe Angineau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, écrivain et ethno-sardinologue. Ça existe vraiment? Non mais c'est une spécialité, sérieusement.
Je crois que ça m'est tombé dessus et que je dois être à peu près l'unique.
Donc vous êtes autoproclamé, c'est ça? Ça veut dire quoi? Ouais. Vous êtes le
spécialiste? Ah non, moi j'aurais jamais osé dire ça.
Non mais sérieusement, c'est une spécialité?
Non, c'est pas une spécialité, c'est simplement l'ethnologie de tous les travailleurs de la mer, en particulier ceux de la sardine.
Pourquoi elle a la côte, la sardine, sans, ou la côte, comme vous voulez, avec un jeu de mots en France?
On va faire des blagues pourries,
oh,
je pense.
Mince.
Elle a les deux, bah ouais, ça invite. Tout simplement parce qu'elle est populaire, elle est simple, et puis elle est dans l'alimentation de tout le monde depuis la préhistoire.
Ah oui, on remonte aussi loin.
Très longtemps, et même plus loin encore. Mais je vous raconterai ça un peu plus tard.
Eh bien, on va raconter l'histoire de la sardine dans un tout petit instant, les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Départ aux aurores pour les sardiniers du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
À l'arrière, tout le monde s'active. Michael et Gérard, les deux marins pêcheurs, préparent le chalut qui servira à capturer la précieuse marchandise.
La curiosité est un vilain défaut.
La méthode est simple. Un chalut de 150 mètres, traîné entre deux eaux et tracté par deux chalutiers qui pêchent en couple.
On les aime griller au barbecue ou à l'huile sur un morceau de pain comme ça, tout juste sorti de leur boîte en fer blanc. Les sardines font partie de notre patrimoine et on plonge à leur rencontre avec notre invité Philippe Angineau, journaliste, écrivain et ethno-sardinologue. Vous êtes tellement fanat de sardines que vous lui avez consacré un musée itinérant. C'est le musée imaginaire de la sardine. Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Depuis bientôt une quarantaine d'années, je crois que j'ai jamais jeté une seule boîte de sardines.
C'est pas vrai.
Et j'ai écumé toutes les épiceries européennes et de la planète même, je dirais, pour trouver des exemplaires de sardines en boîte que je ne connaissais pas.
Et vous avez combien de boîtes différentes?
Des milliers, je ne compte plus depuis longtemps.
Donc c'est un capharnaüm en quelque sorte, ce musée imaginaire de la sardine?
C'est une accumulation autour de la sardine qui a commencé par la boîte et son illustration, puis qui s'est intéressé ensuite à la sardine elle-même, et puis ensuite à la conserverie, et puis aux techniques de pêche, et puis surtout à l'imaginaire de la sardine.
Alors, c'est intéressant de savoir que ce musée se déplace, en fait, de ville en ville.
Oui, c'est quelque chose que j'ai commencé lorsque j'étais à Montpellier dans les années 90, et puis je crois qu'on a dû faire tout le tour du littoral français. Quelques escapades d'hiver au bord du lac Léman aussi, de temps en temps.
Et bientôt. Bientôt, là, vous serez en Bourgogne.
Et là, bientôt, on est à côté de Dijon, à Saint-Apollinaire.
On est un peu loin
du mois d'avril.
On est un peu loin des côtes, quand même, là.
Oui, mais la sardine, c'est sa place. La sardine, c'est toujours le poisson que mangent ceux qui ne sont pas près des côtes.
Oui, on va voir.
C'est le poisson qui se déplace.
Oui, on va pouvoir raconter ça dans le détail. On va revenir sur l'histoire de la sardine en France. Mais d'abord, pardon, cette petite info, ce chat qui veut manger des sardines.
Vous avez mangé des sardines juste avant.
C'est le chat qui revient parce qu'il entend, il a l'odeur de la sardine.
Ça
donc
fait
il
juste
revient.
3 semaines.
Allez, donc, j'en ai marre. Et donc, cette info que j'ai lue qu'on a lue d'ailleurs dans Le Parisien aujourd'hui en France, les sardines rétrécissent. En voilà une nouvelle.
Ah, catastrophe, catastrophe. Les sardines de Méditerranée, pour le moment seulement, qui sont atteintes depuis 4 ou 5 ans. Et on vient seulement de découvrir, là, en ce début d'année, enfin, le rapport vient de sortir, pourquoi elles rétrécissent. Mais c'est terrible, elles font plus qu'une dizaine de centimètres, là où elles en faisaient 15 auparavant.
Pourquoi elles deviennent plus petites? Elles sont malades? Elles sont mal nourries?
Alors, pendant 4 ans, on s'est posé la question, est-ce que c'était un virus? Est-ce que c'était la pollution des eaux? Quelque chose comme ça. Et finalement, on se rend compte que non, c'est un changement d'alimentation. Son petit plancton favori se fait rare.
Donc ça veut dire qu'en saveur, elle est différente, cette sardine de Méditerranée, aujourd'hui?
Ah ben oui, ça n'a plus rien à voir. La sardine de Méditerranée, elle est appréciée parce que c'est une petite sardine, contrairement aux sardines de l'Atlantique qui sont beaucoup plus grosses. Donc une sardine adulte en Méditerranée, c'était 15 cm, là où c'était en fait une juvénile sur les côtes atlantiques. Donc très pratique pour mettre dans les boîtes. Mais maintenant qu'elles font la taille d'un anchois, c'est beaucoup plus difficile de la travailler parce qu'il reste plus rien une fois qu'on enlève la tête, la queue. Le filet est trop maigre en quelque sorte.
Ça veut dire qu'on ne va plus manger que des sardines d'Atlantique?
Il y a de fortes chances, mais en même temps, c'est pas la première fois qu'il y a des accidents comme ça sur, avec les sardines. On en a connu d'autres en Australie, où les trois quarts du stock de sardines a disparu à une époque, lié à un virus cette fois, et ça revient.
Philippe Angineau, vous nous expliquez que vous collectionnez les boîtes, pas les sardines, hein, évidemment vous les mangez, mais les boîtes de sardines d'un peu partout dans le monde. Et il faut se méfier parce que sur certaines boîtes, il est marqué sardine, à l'intérieur il y a des anchois. Ce mot sardine, il sert à désigner plein de poissons différents dans le monde.
Voilà, le terme sardine, en fait, ne veut pas dire grand-chose. Dès qu'un petit poisson est sous nos yeux, on dit c'est une espèce de sardine. Que ce soit un poisson d'eau douce ou un poisson des mers. Donc, en fait, chez les Américains, par exemple, au Canada, au New Brunswick, ou alors dans les États du Nord, dans le Maine, là où il y avait les conserveries de sardines, on appelait ça conserverie de sardines, ça n'a jamais été des sardines, ça a toujours été des petits harengs. Et même chose en Norvège. Les Norvégiens ont longtemps essayé de nous piquer le marché de la boîte de sardines. Ils ont eux-mêmes monté des conserveries. Et la France et l'Europe, par la suite, a mis une barrière douanière très nette. Si ce n'est pas de la sardina pilchardus, ça n'a pas le droit de s'appeler sardine. Voilà. Et malheureusement, c'est tombé en 2002. Maintenant, on peut trouver en France des boîtes de sardines qui n'en sont pas.
Alors, comment c'est sur l'étiquette ? Pour pas se faire avoir.
On il est faut absolument qu'il y ait écrit Sardina Pilchardus et non pas Sardinops du Venezuela ou Sardina Sagax qui peuvent venir d'Asie, etc.
Donc c'est technique.
À noter sur la liste des courses, Thomas.
Ça c'est très important. Vous publiez, Philippe Angineau, La Sardine aux éditions Neva. C'est un livre co-écrit avec Olivier Barbaroux où il a fait des photos.
Alors, Olivier Barbaroux est océanographe. Hein, ouais. Il a travaillé pendant toute sa carrière à l'Ifremer. Et lui aussi a un petit penchant pour la sardine, et partout où il est passé, c'est un spécialiste des algues, à vrai dire, hein. Mais partout où il est passé, il s'est intéressé justement à la petite pêche qui n'intéresse personne, et à ce petit poisson qui ne rapporte pas grand-chose. Et ça a été aussi un de mes angles d'attaque. Et donc, il a une collection de photos des sardines du monde entier. Voilà, il n'y avait que moi qui pouvais flasher là-dessus.
Passer des bonnes soirées tous les deux, j'imagine, hein, entre les boîtes de sardines et les photos.
Oui, effectivement.
De passionnés.
Oui.
Et les images, moi, ce que je trouve fascinant, c'est un banc de sardines qui se déplace. Est-ce que ça va vite d'abord ?
Non, la sardine, c'est vraiment le solex des mers. Moi, ça dépasse difficilement 35 km/h, à tel point qu'on dit que les thons suivent les bandes sardines pour les exciter de façon à ce qu'ils aillent très très vite. Ouais. Et le thon passe à la vitesse supérieure, saute par-dessus le banc, se retourne, ouvre grand la gueule et les sardines s'enfournent directement. Voilà. Ouais. C'est ce que les pêcheurs
donc
racontent.
Ce sont des petites victimes, ouais. Alors des petites proies faciles, les sardines.
C'est des proies faciles pour tous les poissons un petit peu plus gros qu'elles. Ouais.
Elles se déplacent beaucoup. Elles nagent, elles s'éloignent des côtes françaises, par exemple. Enfin, il y a vraiment une mouvance.
C'est un poisson migrateur. Ouais. C'est un poisson totalement nomade. On n'est jamais sûr qu'il va revenir au même endroit l'année suivante. Mmh. Il faut aller chercher la sardine, il faut la traquer. Mais elle a quand même ses habitudes. Elle aime bien les golfs d'une façon générale. Golfe du Lion, golfe de Gascogne, golfe de Guinée. Parce qu'il y a beaucoup d'alluvions. Mmh. Et en fait, ça lui permet de se nourrir et surtout de nourrir les juvéniles. Parce que la sardine commence sa vie en étant totalement végétarienne. Il lui faut que du plancton végétal. Et c'est qu'au bout de 6 à 8 mois, qu'elle va commencer à grignoter les petits céphalopodes et tout plancton animal.
D'un mot, son principal prédateur, c'est l'homme ?
Je dirais le thon, quand même.
Ouais.
Le thon qui en engouffre quand même une bonne part. Et puis après, tous les gros mammifères, bien sûr. Mais l'homme fait des ravages, oui.
Alors, comment on fait des ravages ? Comment on la pêche, cette sardine ? On vous raconte ça dans un instant.
La curiosité est un vilain défaut.
La sardine en boîte reste très bonne pour la santé. Pauvre en métaux lourds, elle est en revanche riche en oméga-3, en phosphore et en vitamine B.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Pour savoir si vous ouvrez une boîte de sardines travaillées fraîches ou congelées, il vous suffit de regarder comment elles sont emboîtées.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Si comme ici, elles ont leur ventre blanc en l'air, c'est qu'elles sont fraîches. Si au contraire, elles ont été congelées, la peau du ventre s'est oxydée et abîmée. C'est donc leur dos bleu que vous verrez.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous aimez les sardines, vous voulez nous partager votre recette préférée, vous avez des questions à poser à notre invité qui est journaliste et sardinologue, Philippe Angineau. Eh bien, vous pouvez appeler au 3210 sur rtl.fr pour réagir, ou alors sur, les réseaux sociaux.
Tout Twitter, évidemment, voilà. Hashtag la curiosité RTL, et puis le Minitel 3615. Ah, non, ça, c'est une blague de notre producteur Gérald Chaland que l'on balance. Ouais. Merci beaucoup.
Les bonnes blagues de Gérald. Gérald Chaland. En tout cas, c'est Diane qui attend vos appels au 3210. Philippe Angineau, on va expliquer comment l'homme produit la sardine. D'abord, est-ce que c'est un poisson fragile, difficile à travailler?
Alors c'est un poisson qui est facile d'accès dans la mesure où c'est un poisson qui se rapproche des côtes au printemps et en été et donc qui est accessible à de petites embarcations. On dit souvent en Bretagne que les pêcheurs de sardines sont en fait des paysans et non pas des pêcheurs. On va pas pêcher la morue à Terre-Neuve.
Oui.
Donc on part la nuit, on revient le matin. Donc c'est facile, petites embarcations. Et souvent la sardine est très présente avec des bancs très 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 nombreux. Donc facile d'accès. Mais par contre, très fragile. Elle ne supporte pas le moindre coup de soleil.
Qu'est-ce qui lui arrive pas...
Déjà, elle est fragile par nature. C'est-à-dire qu'une sardine, lorsque vous la sortez de l'eau, elle ne meurt pas d'asphyxie, mais elle meurt de crise cardiaque, de peur. Elle ne supporte pas la solitude. Elle a besoin d'être en mouvement à plusieurs. Mmh. Vous interprétez comme vous voulez.
Elle vit en groupe.
Vit en groupe, voilà. Et donc, elle est une fragilité extrême. Donc, elle ne supporte pas les écarts de température. Et elle ne supporte pas, surtout, d'être compressée hors de l'eau. Parce que maintenant, quand on pêche avec les chalutiers, c'est plusieurs centaines de kilos. Donc, les sardines sont écrasées dans la poche au moment où on relève le filet. Se prennent le pont sur la figure au moment du débarquement. Donc, on fait plus du tout comme ça. Alors, maintenant, on les pêche presque à la petite cuillère.
Alors ça, on parlera du présent dans quelques instants avec vous, Philippe Angineau, mais avant, il y a 5-6 siècles, comment on faisait pour les conserver, ces sardines qu'on savait déjà fragiles et qu'on avait envie de déguster? Il paraît que même Christophe Colomb en a emporté avec lui pour ses voyages.
La sardine, ça a toujours été le signe de la civilisation, où que l'on soit. Christophe Colomb, c'est plus de 400 tonneaux de sardines séchées qu'il a emmenées sur ses différents bateaux pour traverser l'Atlantique. 400 tonneaux, c'est
mais
énorme.
Séché.
Mais vous imaginez aussi la tête des Indiens à Cuba qui voient ces sardines séchées qu'ils ne connaissaient pas forcément. Mais avant Christophe Colomb, on a les légions de César qui transportaient aussi des sardines séchées. Et pendant tout l'Empire romain, la sardine servait à faire le garum, qui était un petit peu l'équivalent du ketchup de la civilisation romaine. On mettait du garum absolument partout, et ça faisait romain, ou ça faisait gallo-romain, mais c'était la marque d'une civilisatrice, en quelque sorte.
Le mode de conservation le plus utilisé, ça a toujours été le sel, j'imagine?
Bien sûr, oui. Ouais. Indispensable. Le sel, indispensable, le séchage, mais sur des petits poissons comme ça, c'est pas forcément évident. Et puis, heureusement, on a eu quand même un grand français, Nicolas Appert, qui a passé quand même pas loin de 70 ans de sa vie à essayer de mettre au point la technique de la conserve, pour savoir combien de sardines il fallait mettre dans un bocal, même pas un bocal, une bouteille de champagne. Il était champenois et pensait que c'était le meilleur contenant.
Il invente la boîte de conserve pour la sardine, c'est ça son objectif?
La sardine fait partie de ses expériences prioritaires, parce que protéines. Et il est mort, il avait 98 ans, je crois, hein, donc ça l'a vraiment conservé lui aussi. Mais il a été le premier, quand même, à inventer la technique de la conserve qui a immédiatement profité aux sardines avant de profiter aux légumes.
Ça veut dire que la sardine en boîte, ça devient, à cette époque, le premier aliment industriel, c'est ça?
C'est le premier aliment industriel que les familles ont pu acheter, parce que connaissant ses vertus pour la santé, hein, donc c'était avant tout pour les enfants, pour les personnes âgées, malades, etc. Et cette sardine représentait quelque chose, donc il a fallu illustrer la boîte pour ça, et en même temps faire passer un message.
On est à quelle époque d'ailleurs, la création de la...
1810.
Ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi façonné en quelque sorte le paysage, les villes, les zones portuaires. Et il a fallu quoi? Créer des conserveries pour pouvoir garder les sardines? Le fait qu'elles soient fragiles, ça a des conséquences?
C'est un véritable procédé industriel, en fait, la conserve. Et c'est pas trop dans la démarche d'un pêcheur breton, et ni même d'un mareyeur. Et en fait, tous les industriels de la sardine, les Saupiquet, les Chancerelles, etc., pour citer quelques marques, sont des gens qui viennent des Alpes.
Ah oui.
Ce sont des industriels qui ont flairé le bon coup et qui savaient mettre en place un procédé industriel où il fallait maîtriser la métallurgie, c'était quand même assez compliqué, faire les boîtes. Il fallait avoir de bonnes relations avec les pêcheurs, avec les mareyeurs, faire admettre que les hommes partaient en mer pêcher et les femmes travaillaient à l'usine. Voilà, donc c'était énorme. Et en fait, ce ne sont pas des Bretons qui ont lancé l'industrie de la conserve. Alors, ils sont rattrapés depuis.
Comment on la pêche aujourd'hui, la sardine, et comment on la déguste? Vous allez nous donner quelques-unes de vos recettes préférées. Philippe Angineau, à tout de suite, les curieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Notre invité est sardinologue. Nous sommes avec Philippe Angineau qui nous raconte l'histoire absolument passionnante de ce petit poisson bleu. Un petit poisson discret, tellement discret que sur les boîtes de sardines, c'est jamais des sardines qui sont dessinées.
La sardine nous induit toujours en erreur. C'est incroyable. Sur une boîte de sardines, rarement vous trouvez une sardine dessinée, rarement vous trouvez un bateau sardinier, mais tous les autres bateaux, depuis le Queen Elizabeth jusqu'au Drakkar, les Norvégiens, etc., tous les bateaux, ils passent. Il y a même un Spoutnik qui est passé sur une boîte.
Mais pourquoi ?
La sardine n'admet pas la vérité. La sardine a toujours besoin de se faire passer pour autre chose que ce qu'elle est, et prétendre à une autre classe, à une autre distinction, à appartenir au monde des grands, en fait.
Est-ce que ça veut dire que le poisson qu'on se colle dans le dos le 1er avril, c'est une sardine aussi ?
Bien sûr que c'est une sardine. C'est une tradition qui date depuis la fête des fous du Moyen-Âge. Cette sardine de l'inversion des valeurs, la sardine du mensonge. Le poisson d'avril, c'est quoi ? C'est le jour où on a le droit d'aller se moquer des aînés, des gens respectables, où les journalistes ont le droit de raconter des bobards, vous avez remarqué.
Bien sûr. Hein,
c'est le jour
ça
de l'année,
un seul,
le seul.
Bon.
Donc toujours cette idée, du mensonge, et puis de cette idée que la sardine, c'est un poisson pas sérieux. C'est un poisson qui fait rire, c'est le poisson de la galéjade, c'est celui qui peut boucher le port de Marseille, c'est celle qui fait la décoration des officiers, ou moins. Mais voilà, la sardine est quelque chose qui a la possibilité de prendre toutes sortes de formes dans l'esprit des gens qui la connaissent pas, à vrai dire.
Alors, il y a quelque chose qui est essentiel pour comprendre ce qu'est une bonne sardine à la dégustation, c'est l'huile. Expliquez-nous ça. Et alors, le temps que la sardine passe dans l'huile, c'est ça ?
Une bonne sardine, c'est une sardine qui est restée longtemps dans la meilleure des huiles, l'huile d'olive de préférence, et qui a surtout eu le temps de confire dans cette huile. Confire, ça veut dire qu'une fois que la sardine a été frite une première fois, et qu'on la recouvre d'huile par la suite, eh bien là, on va attendre que petit à petit, l'arête, le calcium de l'arête se dissolve, se répande dans les chairs, et là, vous avez une sardine riche en calcium, mais surtout onctueuse et savoureuse. Alors, et ça, il faut attendre 5 ans.
Alors 5 ans, ça veut dire que nous, quand on est au supermarché, comment on choisit notre sardine ? Parce qu'il y a marqué la date de conservation, enfermée dans cette boîte depuis 5 ans, 10 ans.
Libérez-la !
J'ai faim,
vous avez une date limite de consommation, et qui est en fait la date de laquelle il faudrait la manger.
Donc l'idéal, c'est ?
C'est d'en avoir plein son placard et de les choisir petit à petit.
Et c'est de les laisser vieillir.
Et les laisser vieillir.
Oui. Est-ce qu'il y a des boîtes, Philippe Angineau, de sardines millésimées, comme on peut avoir ça pour du vin, du champagne ?
Bien sûr, de plus en plus. Vous avez des sardines millésimées, donc, qui peuvent venir des côtes bretonnes, qui peuvent venir des côtes vendéennes, qui peuvent venir des côtes basques ou méditerranéennes également. Vous avez des sardines label rouge. Enfin, il y a toutes sortes d'indications comme ça pour marquer qu'aujourd'hui, la sardine, c'est plus le petit poisson du pauvre tel qu'on a pu l'imaginer. Aujourd'hui, c'est un poisson qui est valorisé.
Mais ça veut dire que c'est devenu cher, la sardine ?
Oui. Si on se réfère à la sardine telle qu'elle était dans les années 1960, en milieu du XXe siècle, où on avait vraiment un produit bon marché, avec des boîtes qui provenaient la plupart du temps du Portugal ou du Maroc, qui étaient vraiment très peu chères, qui permettaient de nourrir les enfants du baby-boom, on va dire. Aujourd'hui, on est beaucoup plus exigeant. C'est un poisson qui, petit à petit, a pris sa place à la table des grands.
Philippe Angineau, on parle beaucoup des poissons d'élevage, du saumon, du thon, d'autres poissons. La sardine, elle est sauvage, elle est libre ?
La sardine, elle n'a pas bougé depuis 390 millions d'années. C'est-à-dire qu'elle a vu passer les dinosaures.
Elle est confite, alors. Hein.
Elle est restée
les T-rex.
Identique.
Oui. On parlait des T-rex hier, elle était déjà là. Quoi.
Elle était déjà la même.
Avec ses petites écailles, sans plumes ni rien.
Elle n'a pas bougé, elle n'est pas transformée.
Et jamais on a pu domestiquer la moindre sardine. Il n'y a pas de sardine d'élevage, ça n'existe pas.
J'adore la sardine.
C'est un poisson sauvage, simple, naturel, et qui est là depuis... qui est notre ancêtre, en fait. Parce que c'est un vertébré téléostéen, comme nous.
C'est bon pour la santé de manger des sardines? Ça, je sais que c'est maman nous bien. Écoute, elle va me poser la question après l'émission si je ne l'ai pas posée là.
Les sardines, ça devrait être obligatoire au moins deux fois par semaine. C'est excellent pour la santé. Déjà, c'est très riche en protéines et le coefficient prix protéines est l'un des moins chers du marché quand même. Mmh. Avec le thon, mais le thon a un meilleur presque que la sardine et c'est dommage. Parce que les graisses de la sardine sont excellentes, c'est les oméga 3 et les oméga 6. Donc ça, c'est parfait. Et puis vous avez aussi énormément de sels minéraux à l'intérieur. Et puis surtout le fait que ce n'est pas un poisson d'élevage. Il n'a mangé que ce plancton et non pas ce à quoi on nourrit les thons et les saumons aujourd'hui. Et là, c'est vraiment une catastrophe.
La reine dans nos assiettes, ouais. La sardine aujourd'hui.
Et comme c'est un petit poisson, il n'a pas eu le temps de se charger effectivement en polluant qu'on peut trouver malheureusement dans certains.
Exactement,
dans
c'est celui qui a le moins de métaux lourds.
Ça, c'est un autre très bon argument. Dans votre livre, La sardine, publié chez Neva Éditions, il y a des recettes.
Ah bah oui.
Chouette. C'est quoi votre recette préférée pour
alors,
pour
avec
la sardine,
fraîche, j'avoue que je la mange très rarement au barbecue. C'est pas ma recette préférée.
Ça gâche le goût un peu, non?
Quand il y a beaucoup de monde, pourquoi pas. Mais sinon, ma recette préférée sont les sardines farcies. Quand on sait lever les filets d'une sardine et transformer une sardine en hamburger, en quelque sorte, avec une farce selon ses origines, ça sera plus harissa ou menthe ou quoi. Et voilà, ça c'est excellent, vous faites ça au four, ça n'a aucune odeur dans la cuisine, vous ne réveillez pas les voisins et vous avez quelque chose d'absolument excellent. Avec les sardines en boîte, moi j'aime la mélanger avec du beurre, avec de la crème et puis avec toutes sortes d'épices. Donc là j'ai tout essayé, l'orange, la menthe, le gingembre, etc. Ça se marie très très bien avec beaucoup de choses et c'est bien meilleur que tout ce que vous pouvez tartiner qui sort des autres boîtes du commerce.
Et France qui réagit au 32-10, elle nous appelle du Maine-et-Loire, elle nous dit pour l'apéro un beurre de sardine sur un toast, c'est magique.
Ben voilà.
On est d'accord.
Absolument.
Ça, c'est
meilleur que tout.
Ça c'est du bonheur.
Merci infiniment Philippe Angineau, c'est un bonheur de vous retrouver au micro de la curiosité. Je rappelle que vous racontez l'histoire de la sardine, c'est aux éditions Neva et que votre musée éphémère de la sardine, votre musée imaginaire, s'arrêtera du 1er au 26 avril à Saint-Apollinaire. C'est en Bourgogne.
À côté de Dijon, absolument.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.